La première présente un nouveau monde. Léandra Balthazar-Lobo, Jérôme Nussbaum et Lucille Solari.
La semaine dans le rétroviseur, Adrien Zerbini.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau monde. Lundi passé, nous sommes partis de Genève pour rejoindre la Méditerranée à vélo. Un voyage que vous pouvez suivre au jour le jour, tous les matins de la semaine, sur la première entre 9h30 et 10h. Une épopée que nous accomplissons dans un esprit écologique, économie de moyens, d'énergie et de déchets. Mais c'est aussi l'occasion de rencontrer des artisans de la transition écologique et solidaire. Cette semaine, c'est Léandra Balthazar-Lobo, Jérôme Nussbaum et Lucille Solari qui ont pédalé. Voici un retour sur la semaine, donc un best-of, avec également quelques éléments inédits. Et lundi, à Genève, c'était au parc Beaulieu, non loin de la gare, que la première rencontre a eu lieu.
À vélo également ?
Ah bah c'est sûr.
Jonathan Normand. Et vélo électrique ?
En vélo électrique, oui.
Donc vous circulez à Genève que en vélo électrique ?
Oui.
C'est vivable ?
100% vivable. Mais c'est tellement plus agréable. Et vous savez quoi ? J'ai appelé ça la performance globale. Ça me permet de voir plus de monde, de pouvoir faire plus de choses. Puis pour l'équilibre de vie, quoi. C'est, voilà, de mon bureau à la maison, je mets 6 minutes. Je traverse la ville. Voilà, il faut encore un peu aménager mieux les pistes cyclables. Mais c'est en progrès, on va dire, à Genève. Hein.
Working progress à Genève.
Working progress, exactement.
Bon, Jonathan Normand, vous êtes un homme d'affaires, en fait. Vous êtes ce qu'on appelle un businessman un petit peu particulier, quand même. Vous me regardez avec des yeux un peu dubitatifs, mais vous avez fait des tas de choses. Vous êtes président de l'association Demain Genève. On va en parler, on va voir ce que c'est que Demain Genève, parce que c'est une association, c'est aussi un film. Vous dirigez Bilab, qui est une ONG internationale de certification des entreprises. Vous dirigez la partie suisse. Vous, votre idée, votre credo, ce que vous défendez, c'est la possibilité d'une croissance dans le respect des valeurs du développement durable. C'est ça l'idée.
Alors oui, alors ce qu'on démontre aujourd'hui, c'est ça l'avantage, c'est pas qu'on est en train de simplement le présenter ou d'essayer de l'expliquer, c'est qu'on peut démontrer qu'on peut associer un développement économique avec un impact positif pour l'homme et pour la nature, l'environnement. Donc la croissance telle qu'on l'a connue de façon industrielle, effectivement, a fait beaucoup de choses quand même de bien dans différentes régions du monde. On a quand même sorti 800 millions de Chinois de la précarité, de la pauvreté grâce au capitalisme. Maintenant, elle a été aussi très destructrice à plein d'endroits et sur plein d'éléments. Et c'est un peu ça qu'on essaie de porter comme valeur de croissance inclusive, c'est de dire on peut se développer, on peut nourrir tout le monde, on peut donner de l'accès à de l'emploi, à des activités à tout. Simplement, ça doit se faire de façon inclusive en prenant justement les éléments délimités qu'entre autres est le capital naturel. Et ça marche. Et on voit que la croissance est au rendez-vous, qu'on fait les deux choses en même temps.
Alors, dites-moi où est-ce qu'on est ici ? Parce que vous m'avez donné rendez-vous dans ce collectif Beaulieu. On est pour l'instant entre deux serres en verre. Donc, il y a des gens qui s'activent. J'ai vu tout à l'heure dans ces serres, il y a des salades qui poussent. Il y a une caravane. Et puis, peut-être on va s'approcher là parce qu'il y a un joli potager également.
C'est le collectif Beaulieu qui fédère, je crois, 10 associations aujourd'hui, a créé vraiment un espace de vie de rencontre autour de la chose essentielle de notre vie, qui est la nature. Donc, ils ont réussi à faire un super beau projet. Je crois que la ville de Genève les soutient beaucoup aussi là-dedans et est très active.
Ce collectif, on le voit apparaître dans le film Demain Genève, il fait partie des nombreuses initiatives qui existent à Genève. On est même étonné de voir à quel point Genève peut être dynamique sur le plan de cette transition écologique. Sarah Krajenbühl, Stéphanie Anuzzo, vous travaillez dans le collectif. Vous me faites visiter un peu le lieu.
Si on monte sur ce chemin, là, tout au fond, on peut voir les ruches de l'association Les Abeilles Citadines, une des associations qui fait partie du collectif Beaulieu et qui fait de l'apiculture au milieu urbain ici et qui fait aussi de la sensibilisation avec les enfants, explique comment on fabrique le miel, à quoi servent les abeilles et tout ça. Elle fait, Odile Bernier qui s'occupe de l'association, travaille avec l'école à la ferme, une autre des associations qui sont actives ici, et font visiter donc les ruches aux enfants des classes qui viennent ici faire des animations avec l'école à la ferme.
Il y a eu une étincelle au départ, et puis ensuite une sorte de bouillonnement d'idées, de projets et d'envie de faire des choses ensemble, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Très rapidement, plein de gens sont venus intéressés pour avoir un petit espace, pour un projet particulier, comme par exemple Indigo, qui sont donc des plantes teintoriales qui donc essayent de faire de l'indigo, des porte-graines de semences de pays, donc qui sont juste là avec les cardons.
Ouais, ils sont beaux là, les cardons.
Des huiles essentielles de lavande et plein d'associations se sont proposées assez rapidement à faire des projets bénévolement.
Les fruits et légumes qui sont produits ici sont vraiment consommés par les gens qui les cultivent. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que ça représente dans la part alimentaire des gens du quartier, ce qui est produit ici ?
Il faut dire que chacune des associations cultive différemment. Ça dépend vraiment du but de l'association. Nous, l'association AOC qui est là, celle qui a l'espèce de petit toit et le panneau du collectif Beaulieu, on plante à chaque année un peu tout ce qu'on a envie et puis on se partage entre nous. Mais évidemment, ça ne suffit pas à nourrir tous les membres de l'association. C'est plutôt pour le plaisir de le faire. Mais oui, on mange beaucoup de courgettes et beaucoup de tomates. C'est pas qu'on en a qu'une juste pour le plaisir de l'avoir. Mais c'est pas non plus une production pour l'autosuffisance.
Je vous pose la question parce que c'est un de vos objectifs, la souveraineté alimentaire.
Oui, évidemment, les associations comme les artichauts et semences de pays qui produisent des plantons et des variétés anciennes, ils s'inscrivent dans cette logique-là. Mais le jardin du parascolaire a un but avant tout pédagogique et le plaisir de voir comment poussent les légumes, à quoi ça ressemble à une courgette. Comment sont les feuilles d'une courgette et comment ça pousse.
Stopper mon activité, chercher une plume, un papier dérisoire, ces cigarettes qu'on écrase sous les fumées sahariennes, et le blizzard s'estompe. J'idéalise le nouveau jour d'un amour sans parole qui sèche nos larmes d'un baiser sous les flancs. J'idéalise le nouveau jour d'un amour sans parole qui sèche nos larmes d'un baiser sous les flancs. Et le blizzard s'estompe. Des jours heureux, rien que du vent dans nos pensées, et le blizzard s'estompe. Stopper nos activités et de nos plumes sort le passé. Illusion, il y a mes sens pour effleurer des fumées sahariennes, et le blizzard s'estompe. Sèche nos larmes d'un baiser sous les flancs.
le blizzard s'estompe.
The Rebels of Tijuana et le blizzard s'estompe sur la première. Un nouveau monde, la semaine dans le rétroviseur. Lundi, c'était donc la première étape de Genève à Vulbens et la première chute, on va espérer que c'est la dernière aussi, pour Léandra.
Je suis désolée hein, pour ce contretemps. Mais moi, j'ai vraiment eu peur du bus en fait.
Ça va, ça tape?
Hein?
Ça tape?
Ouais, ça tape un peu, ça pique. Là, comme il y a un peu d'adrénaline et puis le coup du choc, ben, je me rends pas trop compte. Mais je pense que ce soir, ça va taper un peu. Parce que là, j'ai besoin de pansement maintenant. Hein. Faudra que je rince bien après, je pense. Hein, que je désinfecte le micro. Non, mais j'avais vraiment prévu le coup, mais je pensais pas l'utiliser si rapidement. M'a trouvé sa pharmacie.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai voulu venir sur le petit trottoir pour laisser passer le bus, et en fait le bus est arrivé hyper vite et j'ai pas eu le temps de faire le tour pour monter sur le trottoir, et ma roue a frotté contre le trottoir, et puis je soupçonne le bus de m'avoir touché par derrière, mais je suis pas sûre parce que le motard a eu cette impression aussi, parce qu'il y a un motard qui s'est arrêté et il m'a dit mais le bus il vous a touché, et moi j'ai pas senti, mais lui il pense que par derrière le bus il a frappé, donc bah voilà.
Ce qui montre qu'ici on n'est pas en site protégé, c'est pas
non c'est pas top hein.
C'est pas indiqué, et c'est vraiment un tronçon qui est extrêmement dangereux quoi.
Quand je vais appeler ma maman pour lui raconter, elle va me dire rentre tout de suite. Non, c'est pas pour moi.
Voilà. Voilà,
je suis magnifique.
Là.
Et là je vais bronzer en croix, je vous dis pas.
Arrivée de toute l'équipe avec un peu de retard à Vulbens donc, et Lucille découvre les vergers de Atoupomme avec Jean-David, maître des lieux.
Au-dessus de nous, il y a un grand filet qui est tendu, hein, qu'on connaît bien, ça on voit partout sur les vergers, les grands vergers, ça c'est pour protéger des oiseaux.
Alors non, pas du tout. Ah. Beaucoup de personnes nous disent « Ah, c'est pour éviter que les oiseaux viennent dans le verger. » Eh bien, au contraire, ces filets qui sont d'abord pour protéger les arbres et les fruits des impacts de la grêle, ouais. En cas d'orage de grêle, là, les filets, au contraire, souvent, on retrouve tout plein de nids d'oiseaux dans nos vergers, surtout les petits, parce que du coup, ils sont protégés contre les plus gros, contre les rapaces, et ça leur fait une protection. Et souvent, on les voit même se glisser entre les deux plis de filet. On les voit courir sur le filet, et ils passent entre les filets pour aller dans le verger. Alors, c'est vrai que les oiseaux mangent énormément d'insectes, surtout les mauvais, et du coup, nous aident à lutter contre les ravageurs dans nos vergers. Mais c'est vrai qu'à l'approche de la récolte, malheureusement, ils mangent aussi un peu les fruits. Et du coup, à cette époque-là, on va essayer quand même de les chasser un peu de nos vergers.
Alors j'ai regardé, je me suis renseignée un petit peu quels étaient les grands ennemis de la pomme. La tavelure, mais ça, c'est connu, on va en parler dans quelques instants. Il y a le ver de la pomme, il y a les acariens, il y a les pucerons. Le ver de la pomme, par exemple, comment est-ce que vous luttez, vous, ici, contre le ver de la pomme, à part avec un produit chimique?
Alors, le ver de la pomme, qu'on appelle communément le carpocaps, nous, on fait une lutte par confusion sexuelle. Alors, le principe, c'est de diffuser dans l'ensemble du verger l'hormone femelle du papillon, et ainsi, le mâle ne va pas retrouver la femelle, du coup, pas d'accouplement, et du coup, pas de ponte et pas de ver dans le fruit. Donc le principe, c'est de noyer, on a des petits diffuseurs.
Ah, voilà.
Alors, ouais. Je vous le montre, mais je pense que vous ne le verrez pas à la radio.
Non, mais vous pouvez nous le décrire.
Donc c'est un petit support en caoutchouc qui contient l'hormone femelle du papillon. Et tout au long, on place ce support en général aux alentours de la fin avril, avant le début du vol du papillon. Et il va diffuser jusqu'au mois de septembre, octobre, et ainsi éviter l'accouplement du papillon.
Bon, il y a aussi, on l'a dit, les acariens. Là, c'est vous utilisez un acarien acarophage. Donc, c'est un autre acarien qui mange l'acarien. Bon, c'est l'idée, le puceron, bah, c'est la coccinelle. Pour lutter contre les pucerons, c'est la fameuse coccinelle. On n'en voit pas, là.
Et ces classes, elles n'ont plus rien à manger. Elles ont déjà tout mangé. Aïe. Elles sont parties.
Vous, ici, vous avez extrêmement diminué le recours aux produits phytosanitaires. Mais... Je me suis laissé dire que, par exemple, de temps en temps, vous utilisez quand même un peu de glyphosate ici.
Alors, on est en passe de... On s'est donné le défi sur... à l'horizon, on va dire, 2002, de ne plus utiliser...
2002
Pardon.
Parce que vous êtes très en retard, là.
Ou alors très en avance. Non. 2022, on va dire, de plus utiliser du tout de désherbants. Alors, déjà...
Parce que là, il n'y a pas... Là, vous, tout est en herbe, par exemple. Alors, et l'herbe est assez haute, d'ailleurs, dans les allées du verger.
Voilà. Donc, on maintient un enherbement permanent entre les rangs, plutôt haut, histoire de justement aussi favoriser la vie des auxiliaires. Permettre aussi de ne pas assécher le sol, parce qu'une herbe, quand elle a fini de croître et qu'elle a épié, eh ben, elle consomme quasiment plus d'eau ou d'éléments. Et du coup, c'est temps qui reste pour les arbres. Ensuite, sur maintenant quasiment seulement 60% du verger, on utilise encore un petit peu de désherbant, mais seulement sur à peine 10% de la surface. Et si on en vient au glyphosate, c'est-à-dire que ça va faire à peu près l'équivalent de 0,2 désherbant par an sur moins de 10% de la surface.
Si je vous demandais maintenant, messieurs, et pour conclure, pour vous, un nouveau monde dans votre métier, hein, qu'est-ce que ça serait ?
Un nouveau monde, mieux connaître les réactions intrinsèques du végétal pour pouvoir y répondre.
Un nouveau Fred. Monde aussi, un nouveau monde, ça peut être aussi, enfin pour moi ça va être ça, hein. Si on parlait du glyphosate tout à l'heure, donc le glyphosate, nous agriculteurs, il a été fait par des firmes chimiques, on nous l'a amené sur les marchés avec des ce qu'on appelle en France des AMM, hein, des autorisations de mise en marché, donc nos gouvernements ont tamponné sur le produit valide, les firmes chimiques ont dit que c'était un produit qui était sain, nous on nous le donne en disant allez-y, maintenant voilà 20-30 ans après on s'aperçoit quand même que c'est un produit qui n'est pas aussi inoffensif que ça, donc moi ce que j'attends dans un monde où tout le monde devrait être responsable, c'est déjà, faut remonter à la source des problèmes et de ceux qui font ces produits phyto, de faire peut-être des produits, comme maintenant on fait des produits pour l'homme, des produits pharmaceutiques beaucoup plus doux. Donc je pense qu'il y a moyen de trouver. Sauf que l'argent fait tout. Dans le nouveau monde, peut-être que l'argent fera pas tout. Mais pour l'instant, cet argent fait tout et ces firmes ont le pouvoir. Et nous, on subit un peu ça et on voudrait bien que ça change. Et je pense qu'il y aurait possibilité d'avoir des produits qui seraient sains pour la population, etc. etc. Voilà un nouveau monde, ce que ça pourrait être. Nous, on n'est jamais que des applicateurs. Nos pommes, on les mange nous, on les donne à manger à nos enfants, à nos voisins. Donc ça, c'est important.
Voilà. Et aux journalistes de passage, vous en donnez à manger ?
Alors, comme on ne fait pas de produits de conservation, on n'a plus de pommes. Alors, on va peut-être trouver une vieille pomme qui traîne au fond d'un frigo, mais donc on n'a plus de pommes. Voilà. Nous, la vente se finit pour nous fin mai, début juin, puisqu'il n'y a pas de conservateur sur la pomme, et on reprendra les premières pommes de saison au mois d'août. Désolé, mais il y a peut-être une petite Williamine qui traîne pour refaire les jambes.
Oui, avec la canicule qu'on subit, la Williamine, là, je ne suis pas certaine. Par contre, un petit jus de pomme, j'ai rien contre.
Eh bien, on va remonter boire un jus de pomme.
Allez.
Après le jus de pomme et la visite de ses vergers, une nuit de repos aussi, toute l'équipe remonte en selle pour Seyssels, une étape avec un fort dénivelé, pas facile, notamment pour Jérôme Nussbaum, notre réalisateur, qui est le seul à avoir un vélo électrique, un vélo cargo, car il transporte tout de même 50 kilos de matériel.
8h25, on lève le camp, direction la plus dure étape, enfin en tout cas réputée la plus dure étape de la Viarona. Vulbens, c'est celle.
Oh hop là. Ah, c'est bon. Ah. Oh la vache, il est lourd. Quand il se renverse ce vélo. Ah, démarrage en côte. Même avec le mode turbo de l'assistance électrique, ben non, ça le fait pas vraiment. Voilà, c'est parti.
Ah, j'en peux plus. Je pense que c'est une bonne chose que j'ai un entraînement de course à pied. Mais je m'attendais pas à ça. Quand même. Du coup, dans les montées, c'est pas facile parce qu'on a vraiment le poids qui nous tire vers l'arrière. Et on se bat contre la montée. Après, c'est une grande fierté quand on arrive en haut. Hein. Même si on a poussé notre vélo, on est content.
Et puis moi, je peux pas espérer le pousser à la montée, ce truc. Il est trop lourd.
Attends qu'il y en ait un autre qui monte. Quand t'as d'attraper.
Alors, on nous avait dit que ce serait dur. Tous ceux qui nous ont précédés sur ce parcours cyclable nous ont dit ah, attention, l'étape entre Vulmens et c'est celle la plus difficile du parcours. Après, c'est du gâteau. Alors, je me réjouis de manger le gâteau, quoi.
Déraillé.
Arrivée donc des héros à Seyssel et visite de la ferme d'Héloïse, Élise et Louis, une sœur, un frère, engagés dans une agriculture résolument durable. La visite se déroule avec Louis.
C'est notre serre de plantation, c'est une serre qu'on a fait avec un puits canadien pour pouvoir commencer nos semis en mars. Donc en mars, on arrive à avoir 15 degrés à l'intérieur sans chauffer, et ce qui nous permet de commencer nos semis. Et parce qu'on essaye de faire tous nos semis et on utilise nos propres graines. Donc on fait une sélection sur nos tomates, sur nos courgettes. Et on utilise nos propres graines pour qu'elles s'habituent à notre terroir, en quelque sorte. Et qu'elles s'habituent à notre façon de cultiver. Donc sachant que nos tomates, on les arrose pas. On les arrose juste au début quand on les a plantées. Et après, on les arrose plus de l'été.
Alors vous faites vos propres graines, mais vous avez le droit, ça, en France ?
Alors, bonne question, la législation est un peu floue là-dessus. Normalement, selon les textes, on a le droit, quand ce ne sont pas des semences protégées, donc si vous les prenez par exemple chez Cocopelli ou des sites comme ça, où vous utilisez des semences reproductibles, là vous avez le droit de le faire pour vous. Après, vous n'avez pas le droit de faire des plants que vous allez vendre à des particuliers sans avoir acheté les graines.
Oui, mais vous allez quand même vendre le produit de ces plants.
Voilà. On vend ce produit.
Donc vous êtes un peu limite sur la législation, quoi.
Ouais. Après, il y a un moment où la loi...
Vous êtes un peu limite désobéissance civile.
Désobéissance civile. suivant ce qu'on... Les lois sont pas forcément tout le temps les plus justes, ou en tout cas les plus honnêtes.
Alors, en dessous de cette serre... Alors déjà, là, je vois une... C'est vraiment pas conventionnel du tout, hein, comme exploitation. Je sais pas trop comment le décrire parce que ça donne déjà un sentiment de fouillis général. Il y a un petit étang artificiel ici. En dessous, moi je vois beaucoup de végétation. Je suis incapable d'identifier de quelle végétation il s'agit. Puis tout en bas, il y a les serres. Alors on va rejoindre les serres. Ça vous dérange quand je parle de fouillis général et sympathique d'ailleurs?
Non, du tout. On est parti là-dessus. Par exemple, là, sur notre droite, on a de l'hysope, on a de l'absinthe, on a de la menthe, on a de la lavande, donc qui sont toutes ensemble, qui cohabitent ensemble et qui s'apportent mutuellement certaines choses. On voit les abeilles dessus, les papillons, donc ouais. ça permet... On a voulu vraiment augmenter la biodiversité. L'étang, c'est pareil, on voit des libellules au-dessus qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Et on a des grenouilles. Du coup, les grenouilles nous mangent les limaces. C'est augmenter la biodiversité pour créer un équilibre et ne pas avoir de ravageurs qui vont ravager nos cultures,
oui.
Voilà, comme on dit.
Là, il y a un petit... je vois quelques petits arbustes fruitiers.
C'est des pêches de vigne. Ensuite, on a des figuiers. Donc, en fruits, on a planté parce qu'on n'avait pas énormément d'arbres. Donc, on a planté énormément de pêches de vigne. Parce que c'est un fruit qui se plaît très bien chez nous. Donc okay. Là, on peut voir les courgettes qu'on paille parce qu'on les arrose en début de culture et après on n'arrose plus, donc on paille pour limiter l'évaporation.
Désherbez pas. Pas de désherbant là, hein. Y a rien. Il y a plein d'herbes folles pour ne pas dire de mauvaises herbes.
Alors, il n'y a pas de mauvaises herbes. En fait, on appelle ça des adventices maintenant. Et non, on ne désherbe pas. On va occulter l'hiver, en fait, en mettant, par exemple, du seigle qui va pousser pendant l'hiver et qui va étouffer les autres cultures. Après, on va les faucher en début de saison et on va planter à travers nos courges, nos courgettes. Ça nous permet de jamais laisser le sol, en fait, à l'air libre, ce qui aurait tendance à le lessiver et du coup à garder une vie.
Pas de chimie du tout ici.
Non, on utilise ce qu'on appelle la biodynamie, on va faire des purins. On utilise par exemple l'achillée millefeuille, qui est une petite plante qu'on trouve en abondance et qui sert à soigner les maladies cryptogamiques. On utilise le purin d'ortie, la consoude.
Bon, alors tout ça c'est bien joli, c'est assez beau à regarder, mais qu'est-ce que vous produisez? Ça vous rapporte quoi et quelle est votre production annuelle?
Alors, en production annuelle, ça c'est une bonne question.
En gros.
Je pense qu'on n'a jamais vraiment compté ce qu'on produit. C'est notre troisième année, donc cette année on va se tirer un salaire. Jusqu'à maintenant on n'avait pas de salaire à proprement parler. Donc ça on l'avait planifié, c'est ce qui faisait aussi notre liberté de pouvoir produire ce qu'on voulait. En production, on a de quoi produire 50 paniers par semaine. Sur notre saison, ce qui est à peu près les chiffres sur une ferme de cette taille. L'idée, c'est vraiment d'atteindre l'équilibre pour avoir une liberté, en tout cas financière, et ensuite en revenir au projet, on va dire politique ou en tout cas éducation, où on aura en tout cas du temps pour accueillir des gens sur la ferme et transmettre ce qu'on sait. Apprendre aux enfants comment manger, ce qui est bon et comment pousse une tomate. Donc voilà, le but est vraiment d'utiliser toutes les ressources de la ferme qui sont aussi bien savoir, technique et transformation, plus que de faire pousser à tout prix des légumes.
Louis, en conclusion, si je vous demande le nouveau monde pour vous, à quoi il ressemble?
C'est un monde où on se recentre sur la nature, où on vit avec sa communauté proche, où on s'entraide les uns les autres et où on n'a pas peur d'aller demander et en tout cas de transmettre son savoir pour faire émaner de nouvelles énergies qui ne soient pas fossiles mais humaines et construire un monde moins énergivore et peut-être un peu plus heureux. I see the kids, them running on by. And that girl in the summer dress with the sunshine smile. We hear the birds, they're whistling in the trees. Oh, it's like they know how I feel. Busy bee watching the world, sit at the side of the curb. You're busy bee watching the world singing. Left my home and I flew east over North Sea. Life's just beginning, I'm breaking free. On the ninth street with the sun on my back, yeah, yeah. Knock for Uber, come kill some time on the hair and grab. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. You're busy bee watching the world, singing. This is how it feels when a good day comes along.
lips. It's here for all of us, so come and warm your skin. On the ninth street, soon we'll be back on track. Knock, knock for Ruben, come and kill some time on the heroin crack. Busy bee watching the world, seeing all the boys and the girls. You're busy bee, well, haven't you heard? Yeah, this is how it feels when a good thing comes along. Oh, this is how it feels when a good thing comes along. This is how it feels, this is how it feels. This is how it feels when a good day comes along. This is how it feels, this is how it feels.
Good day sur la première, c'était Jonathan Jeremiah. Un nouveau monde, la semaine dans le rétroviseur. Mercredi matin, l'équipe est à Seyssel et c'est le départ, à vélo bien sûr, pour Belley.
Soyons pros, qu'est-ce qu'on fait là? Il est quelle heure? 9h?
C'est 8h40.
8h40.
Donc... En tout cas, ce qu'il faut qu'on essaie, c'est de partir plus tôt.
Ouais.
Je suis la dernière levée, je suis la première prête.
La première, un nouveau monde.
Voilà, on a enfin un joli passage cycliste. Là, c'est vraiment agréable, loin de la route, loin des camions, loin des voitures qui bordent la forêt d'un côté, champ de maïs de l'autre. Et on croise plein de cyclistes.
Bonjour.
Bonjour. Des gens en roller, en trottinette, des marcheurs et même... Même des mamans avec leurs poussettes et leurs petits schtroumpfs. Une chaleur d'enfer, il est 13h et on arrive dans une cité HLM. Une impasse, et au bout de cette impasse, il y a donc le jardin partagé. JAR, A-R-T, comme enfance de l'art, et d'un D-I-M. Comme l'un, le département dans lequel nous nous trouvons. C'est au fond de cette impasse. On est alors carrément, mais vraiment dans une cité HLM. Ah ben voilà, il y a une pelouse avec des enfants qui jouent, c'est magnifique. Messieurs, dames, bonjour.
Bonjour, bienvenue. Hein.
Alors, où est Emmanuel?
C'est là, c'est moi. C'est
lui. Bonjour Emmanuel.
Non, non.
Voilà. Voilà, donc c'est un peu le camping ici, hein. On est un peu...
Alors, en fait, je suis même assez étonnée, on est vraiment dans une cité HLM, voilà, des années 50-60, je pense.
C'est ça, c'est ça, peut-être exact. 70 les habitations, là-bas 70, désolé.
70, oui.
70, c'est plus français en plus. Hein.
C'est plus belge aussi.
Moi, je vois la santé des courageuses personnes qui ont beaucoup pédalé. Voilà.
Merci, madame.
Attention, parce que ça, c'est une dangereuse syndicaliste rouge.
Belley, c'est la ville du Bugey. Le Bugey, c'est une sorte de... C'est comme en Suisse, hein, c'est comme un petit canton. Hein, donc, c'est vraiment la capitale. Et vous êtes dans la cité HLM, donc le quartier le plus mal famé de la ville. Là.
Alors, on ne dirait pas. Hein.
Voilà. Oui, parce que quand on a voulu implanter ce jardin, il y a eu des tas d'oppositions.
Oui, mais vous parlez de jardin. Alors, c'est vrai que maintenant, je le vois. Voilà. Contre le mur, il y a un mur en pierre sèche.
Effectivement.
Qui longe le terrain. Les immeubles HLM sont sur la gauche et puis de l'autre côté, il doit y avoir la rue. Et là, effectivement, il y a un potager improvisé. Hein. Ah ouais, non. Ça, c'est jardin partagé.
Voilà.
Votre association qui a lancé ça ici, dans cette cité HLM.
Oui. On fait aussi, on travaille avec l'art, en fait. La présidente de l'association, elle est plasticienne, hein. Ensemble, dans l'association, on a décidé de ne pas faire seulement du jardinage, mais aussi de prendre ça dans une manière un peu englobante. Toutes les questions aussi environnementales. L'idée, c'était de montrer qu'on peut faire des jardins bio, qu'on peut trier les déchets, qu'on peut composter, hein, que le compost, c'est pas sale, et qu'on remet le compost. On a déjà mis du compost déjà dans notre jardin. Parler de la nourriture bio, on fait aussi des ateliers de nourriture, de recettes. Hein.
Oui. Qui entretient ce jardin? Alors, sont tous les habitants, sont les enfants qu'on voit là, qui courent de tous les côtés, qui ont l'air heureux comme tout aujourd'hui?
Voilà, alors tout. Non, effectivement, il n'y a pas tous les habitants, mais il y en a quand même pas mal. Il y en a pas mal qui entretiennent, il y en a aussi pas mal qui prennent des légumes, qui prennent des aromates.
Justement, comment voilà. Ça se passe? Tout le monde a le droit de venir ici, de se servir. C'est quoi l'idée?
C'est qu'effectivement, que tout le monde puisse venir se servir, bien sûr, en respectant les autres et en respectant aussi le jardin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, effectivement, tout prendre à soi. Il y a des notions de partage aussi qu'il faut développer. Ce jardin, ça fait plus d'un an qu'on est dessus. Et ben moi, je suis surpris parce que les gens ne s'approprient pas tout, justement. Et ils prennent avec parcimonie. Ils respectent beaucoup.
Alors Emmanuel, on a vu ce que Jardin Partagé avait fait ici dans cette cité à HLM, mais l'association Jardin Partagé, je répète l'orthographe, voilà. J'A-R-T, d'un comme le département est partagé, ça n'est pas que ça. C'était quoi l'idée à la base de cette association?
Alors l'idée à la base, c'était de faire une passerelle entre les théories de Gilles Clément.
Alors, faut présenter un peu Gilles Clément parce que pas tout le monde ne connaît ce paysagiste et même presque philosophe, on pourrait dire, français.
Ah oui, vous le connaissez très bien. Effectivement. Alors, donc, Gilles Clément, c'est un paysagiste qui met en valeur la nature et les hautes herbes. Il a plusieurs concepts. Il y a trois concepts généraux. C'est le premier, c'est le jardin en mouvement. Le deuxième, c'est le tiers-jardin. Et le troisième, c'est le jardin planétaire. Alors, jardin planétaire, tout simplement parce qu'il considère qu'en fait, la Terre est un jardin et que finalement, chaque interaction sur un point de la Terre peut avoir des conséquences sur une autre partie de la Terre. Un de ses concepts les plus intéressants est celui du tiers-jardin, où il met en valeur la biodiversité. Alors, la plupart des jardins partagés qu'on voit, généralement, ils sont tous faits sur le modèle de, effectivement, on va faire des parcelles de jardins alimentaires, on va dire ça. Mais on ne tient pas compte ni des espaces de circulation, ni des espaces qui ne sont pas des espaces alimentaires, mais qui sont simplement des réserves de biodiversité. Et c'est en faisant notre jardin, on a voulu associer justement, mettre en valeur les parcelles alimentaires, mais aussi les espaces de circulation, les espaces que j'appellerais aussi conviviaux, qui vont avec la circulation, c'est-à-dire les endroits où on peut mettre une table, les endroits où on peut faire des spectacles aussi dans un jardin. Et enfin, en troisième partie, des espaces naturels où on laisse vivre la biodiversité.
Emmanuel, si je vous demande maintenant, et ça sera la conclusion, de me décrire ce qu'est le nouveau monde pour vous.
Alors, le nouveau monde, c'est que les gens prennent conscience des biens de consommation, des ressources qui vont devenir de plus en plus rares, pour peut-être moins consommer, mais mieux vivre, plus de solidarité, aller chercher une richesse qui est autre que matérielle. Voilà, la différence sociale, ce sera l'implication qu'on aura dans la société.
Charlotte, Claire, on est toujours dans cette résidence HLM, on peut dire une résidence, voilà. Ok, toujours les enfants qui jouent là au fond, c'est une belle journée d'été. Vous représentez l'association Entre Autres.
On a créé Entre Autres pour dire que chacun, chacune d'entre nous est l'autre de quelqu'un. Et qu'on peut pointer du doigt qui on veut, on peut blâmer, accuser, détester son voisin, mais finalement on est toujours l'autre de quelqu'un. L'intention quand on a créé Entre Autres et jusqu'à aujourd'hui, c'est de montrer qu'ensemble, à travers les rencontres, on s'enrichit des uns et des autres.
Alors, vous l'avez créée quand cette association? Ça date de quand?
C'est une association qui a 3 ans aujourd'hui, qui a été créée en janvier 2015, au début de l'envie de Claire et moi, et ensuite avec le plaisir d'être rejoint par des personnes d'univers très différents, du conte, de la sociologie aussi, une actrice, des personnes très différentes avec l'envie vraiment de monter des projets où on fait des choses ensemble.
Une association, ça s'ancre toujours dans un territoire donné. Alors vous êtes venu ici parce qu'il y avait Jardin Partagé, donc il y avait un premier pas. Mais la réalité sociale sur ce territoire, à quoi elle ressemble? Comment est-ce que vous pourriez nous la décrire?
Quand on est arrivé ici, Belley, c'est une ville de notables. C'est un ancien évêché, c'est une ancienne caserne militaire. Ça a cette réputation d'être une ville un peu austère et certaines personnes Abelais se gargarise de cette histoire de notable. Et il se trouve que, en s'installant ici, on s'est rendu compte que c'est un quartier multiple, divers, pluriel, avec des personnes qui viennent du monde entier, et que finalement, toute cette histoire, elle est invisibilisée, alors que, à force de parler du Bugey, de l'identité bugiste, on s'enferme, alors que ce qui nous intéresse, nous, c'est de montrer que Belley est une ville monde, et que le Bugey, c'est un espace ouvert, qui est accueillant, et qui sait accueillir, et qui aime accueillir. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi créé l'association ici.
Quel lien entre ce que vous faites et les jardins partagés, justement ?
Alors, on a des temps en commun, il y en a beaucoup de communs. Alors déjà, personnellement, je suis adhérente à Jardins Partagés. Et ensuite, on a la même idée que bah, si on veut changer quelque chose, il faut lancer quelque chose. Et on ne peut pas tout faire seul, parce que ça ne marche pas, c'est long, c'est ennuyeux. Alors que dès qu'on est plusieurs, qu'on a le même objectif, on peut se mettre en mouvement ensemble et arriver à vivre petit à petit dans le monde dans lequel on a vraiment envie de vivre. Un monde dans lequel on se sentirait accueilli, ce qui est notre objectif.
Donc la base, finalement, de votre action, c'est de mener des actions comme on en voit ici aujourd'hui et que propose Jardin Partagé. Donc un pique-nique ouvert à tous, ouvert aux gens qui vivent ici. Un petit potager dans lequel les habitants peuvent s'investir. Quoi d'autre ?
On anime beaucoup d'actions. Donc en réseau, à plusieurs, parce que comme le disait Charlotte, notre intention c'est de réfléchir à comment on fait ensemble, comment on fait ensemble en bonne entente, en prenant en compte nos différences, les rapports de pouvoir, notre amitié, comment on fait ça ensemble. Et on travaille sur différents projets. D'abord, on a créé un collectif autour du 8 mars, de la Journée internationale des droits des femmes, donc qui a réuni autant des jardiniers que des artistes, que des personnes de quartiers différents, d'origines différentes. Et on a recouvert la ville de silhouettes qu'on a tous peint ensemble, de personnalités qui avaient œuvré pour les droits des femmes. Là, on est en train de lancer un grand projet autour des migrations, justement, pour parler de comment on accueille et comment on est accueilli. Et l'idée, c'est il y a beaucoup de boutiques et de magasins vides dans le centre-ville de Belley. Malheureusement, c'est comme dans beaucoup de villes, les centres-villes se dépeuplent. Et notre intention, c'est de créer un musée éphémère des migrations et de montrer justement cette histoire plurielle de Belley et de montrer qu'à travers des ateliers, demander à différentes personnes d'apporter un objet qui est pour elles symbolique de leur trajectoire. Que ces personnes soient arrivées de Lyon, de Lille, de Syrie, de Djibouti, peu importe. On a tous une histoire et le projet du musée éphémère sur l'immigration, c'est pour rappeler qu'on n'a pas de racines, on a des pieds, on avance et le monde est en mouvement et chacun d'entre nous est en mouvement. Et c'est dans ce mouvement qu'on crée le monde de demain, c'est en se rencontrant, en échangeant et en se transformant les uns avec les autres.
Un nouveau monde, de Genève à la Méditerranée, en suivant la Via Rhôna.
Suite de notre aventure, l'équipe remonte en selle, étape de Belley à Brangue.
Mais c'est très sympa là. Moi j'ai demande si je vais pas l'année prochaine, je reviens
acheter une maison.
Mais non, pas acheter une maison, mais je refais le
en caravane.
Mais non, toujours à vélo. Là, c'est beau, il y a plein d'endroits magnifiques,
c'est beau comment?
Donc il y a le Rhône qui enfle de plus en plus, qui prend de plus en plus d'ampleur. Je suis pas très douée pour estimer les distances, mais là, la berge d'en face, elle est à 150 mètres, quoi. Facile. On a un pont, genre pont suspendu, là, juste à notre droite. Puis ce fleuve est absolument majestueux. Il coule comme ça dans une gaine boisée. C'est calme, c'est paisible, voilà. Et il n'y a pas trop de monde. Et puis on fait des rencontres sympathiques, quand même, on a rencontré.
Oui, nous deux jeunes Hollandais, Gisèle et Nicolas, là, qui se sont posés juste 100 mètres avant.
Oui, sous l'arbre, à l'ombre.
Voilà, faire une petite sieste.
Bon, nous, on n'a pas le temps de faire la sieste, hein, Jérôme, parce que je crois qu'on est attendu.
À Brangue.
À Brangue. Et on est presque à Brangue.
Bon, alors, Brangue bat de combat.
Elle est pas mal.
L'humour qui déteint, hein.
Ouais, c'est ça. Si pourri que le mien.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes arrivée.
Ouais, enfin. Moi, c'est Lucille.
Alix,
Cathy, Léandra,
bonjour.
Bonjour, Damien.
Enchantée.
Okay, enchantée.
Et ça, c'est la nouvelle école, alors?
Alors, effectivement, donc là, c'est le bâtiment, le nouveau bâtiment de l'école publique.
Et donc Damien et moi et d'autres collègues du coin, notre projet c'est de créer une école alternative et on va utiliser en fait les locaux de l'ancienne école publique. Donc en fait c'est un peu atypique, mais il y aura deux écoles publiques et privées alternatives dans le même coin. Donc il y a quelque chose à construire.
Et ça, on en parle dans Un Nouveau Monde après le pique-nique. Il est 14h. Nous avons été chaleureusement reçus par quelques citoyens de ce petit village de Brangues, 600 habitants. Brangues, village où a séjourné, où a vécu, où est enterré même Paul Claudel. Nous avons pique-niqué, somptueusement pique-niqué même sur cette place de Brangues. On est juste en face de l'église, il y a le parvis de l'église et puis juste à côté, on est sur une sorte de belvédère. Et le maire de Brangues nous a rejoint, Didier Louvet, et on va voir avec Didier Louvet que ce petit village a amorcé, presque malgré lui d'ailleurs, sa transition écologique. Et ça commence par une école que l'on aperçoit juste derrière nous. On entend les sons du chantier, puisque l'école est en construction, c'est une éco-construction. On va en parler dans quelques instants. Mais avant ça, Didier Louvet, là on est sur un belvédère, il y a un magnifique paysage qui s'étale devant nos yeux. Racontez-nous un peu ce qu'on voit là.
Alors vous êtes effectivement dans un petit village à la frontière de l'ex-Savoie. Hein. Le Rhône faisait la frontière entre le Royaume de France et la Savoie, donc on rentrait dans ce Royaume de France. Et le village de Brangues est situé sur une ancienne molasse qui a délaissé un monticule de terre, et et tout autour de ce caillou, on se retrouve dans la plaine alluviale du Rhône, qui est très argileuse. Donc de tout temps, les gens et les hommes ont fabriquer, construire leur maison avec les matériaux locaux. Donc on retrouve une construction de maison pierre sur la hauteur du village. Avec
comme la mairie là, qui est derrière nous.
Exactement. Et puis on descend vers la plaine, sur le bas, on trouve donc des maisons en terre, en pisé, qui seront directement produites avec de l'argile de cale, matériaux que l'on a voulu se réapproprier dans une construction un petit peu moderne. Et c'est pour ça que surgit un bâtiment du 21e siècle, construit avec des matériaux du 19e, dont la terre, la paille et du bois, tout ça bien sûr localement produit. Et voilà.
C'est ce qu'on appelle de l'éco-construction, ne serait-ce que parce que le matériau est local. Autre particularité du bâtiment quand même, je voudrais qu'on en dise deux mots, c'est l'architecture. Parce que l'architecture, vue d'ici, moi je trouve que c'est un bâtiment magnifique, en pisé, en bois. Mais alors, rien à voir avec l'architecture traditionnelle de ce charmant village de Brangues.
Oui, alors là aussi, le village est classé par les monuments historiques depuis maintenant 4 ou 5 ans. Et ce que l'on ne veut pas dans notre réglementation, c'est de construire des maisons postiches qui ressemblent de près ou de loin à ce qui existait. On autorise la construction de bâtiments de notre époque, du 21e siècle, donc c'est des formes très carrées. Mais le souhait, avant tout, était d'utilisation des matériaux de l'époque qui permettent de sensibiliser la population à la richesse de ces matériaux, tant sur le plan écologique et plan d'économie d'énergie. Enfin, voilà, le challenge, il est là, quoi.
Didier Louvet, on est dans le Nouveau Monde ici, c'est ça, le Nouveau Monde?
Alors oui, le nouveau monde du village de Brangues, eh bien, écoutez, je serais déjà très très fier en étant maire d'avoir anticipé un nouveau monde, parce que je crois que le monde dans lequel on vit, il est un peu tout tordu dans tous les sens. Oui, nouveau monde parce que ce respect, effectivement, revenir aux valeurs, alors nouveau monde, mais on revient quand même aux valeurs d'antan, alors nouveau ou ancien monde, je ne sais plus comment il faut dire, mais effectivement, il faut reprendre tout ce que nos aînés ont fait. Ils le faisaient tellement bien. On a éradiqué un petit peu cette façon de vivre. Il faut vraiment qu'on revienne à ça, aux valeurs de la terre, aux valeurs rurales. On sait que tout s'est bâti par rapport aux campagnes. Les villes n'ont fait que copier un petit peu ce qui se passait dans les campagnes. Je suis vraiment convaincu qu'en partant des bases comme ça, qu'en suscitant l'intérêt des populations autour de projets comme celui-là, on pourra faire changer effectivement la face du monde. Alors à ma petite échelle, je l'essaye et j'espère qu'il y aura plein d'autres choses qui continueront ailleurs et de partout pour qu'on vive un peu mieux.
C'est bon, la pause est terminée.
Bonjour, messieurs, dames. Ah bah elle est magnifique cette classe.
C'est une vraie classe à l'ancienne, comme des générations de parents de ma génération ont connu. Alors la particularité de cette classe où nous nous trouvons, c'est que le maire de Brangues vous a mis à disposition cette classe dans l'ancienne école, au moment où rentrera en fonction la nouvelle école, pour que vous puissiez y organiser une nouvelle école, l'école des couleurs. Qu'est-ce que c'est que cette école, Alix Larchet?
Donc l'école des couleurs, c'est une école alternative privée hors contrat avec l'État sous forme associative. Donc Damien et moi, ainsi que d'autres parents, nous avons décidé de créer cette école-là par souhait, par envie d'offrir à nos enfants une école qui respecte leur rythme, qui respecte leur rythme d'apprentissage. Une école qui met à disposition un cadre naturel, donc un jardin, on va pouvoir faire le potager. Et nous, l'idée de notre école, c'est que l'adulte se place dans un rôle d'accompagnant, dans un rôle d'observateur. Donc l'enfant qui arrive le matin, il va choisir sur des étagères le matériel avec lequel il veut travailler et il va pouvoir s'installer tout seul ou s'installer en groupe. Donc pas forcément sur une petite table comme sur laquelle nous sommes, mais sur une table ronde ou alors il peut prendre un tapis puis se mettre au sol et aller jusqu'au bout en fait de sa curiosité.
Ça me rappelle les méthodes de l'école, méthode pédagogique de Montessori, Damien.
Oui, c'est bien sûr que c'est issu de cette pédagogie-là. La pédagogie Montessori nous intéresse beaucoup parce qu'on est dans l'observation de l'enfant. On est aussi beaucoup dans la manipulation, dans l'apprentissage de la précision au niveau des enfants, mais aussi de l'autonomie. Et on revient à ce que disait Alix, c'est le travail en atelier, en petits groupes, et pas chacun de son côté, sur sa table, dans son coin. Après, on va pas non plus s'arrêter à Montessori, on veut pas s'enfermer dans une pédagogie propre. Il y en a d'autres qui sont très intéressantes, comme celle du troisième type, l'école du troisième type de Bernard Collot, René aussi, qui a beaucoup travaillé, et encore bien d'autres dont j'oublie le nom.
Quelle place aura dans cette nouvelle école des couleurs la pédagogie à l'environnement, à l'écologie, au rapport à son environnement? Ça, c'est une thématique qui sera sensible dans cette école des couleurs.
Alors, tout à fait. Dans le projet pédagogique, nous souhaitons vraiment un lien avec l'environnement, donc avec l'extérieur, donc le village de Brangues, avec le musée, les différentes activités du village, mais un lien avec la nature. Et donc, nous allons louer cette salle, cette ancienne salle de classe, mais nous allons aussi partager le jardin donc par lequel nous sommes passés, qui était un ancien jardin d'insertion, et il reste un petit groupe de 4 jardiniers qui continuent à l'entretenir. Et nous souhaitons vraiment créer ensemble, en fait continuer à entretenir ensemble les enfants et les jardiniers, un jardin public qui soit accessible aux habitants du village, que le plus de personnes possible aient envie de descendre dans ce jardin-là pour flâner, pour glaner des fruits. L'éducation à l'environnement fait vraiment partie du projet pédagogique, que les enfants puissent y accéder tous les jours s'ils veulent, en fait. Mettre les mains dans la terre, nous sommes hyper importants pour, parce que nos enfants sont les citoyens de demain.
Ici, on est dans une ancienne école, dans une ancienne classe, et pourtant, c'est ici, sous votre impulsion, que se construit le nouveau monde, Damien.
C'est surtout un monde en transition qu'on veut faire, c'est faire un pas de côté. Donc oui, on fait tout ce qu'on peut pour faire évoluer les mentalités de nos proches, de nous-mêmes en premier lieu. Et on espère construire quelque chose de nouveau pour nos enfants et qui vivent heureux, puisque c'est notre but premier.
À quoi ressemble ce nouveau monde pour vous ?
Un monde apaisé, bienveillant, où on s'écoute, on est à l'écoute de ses sentiments et de ceux des autres, de ses émotions, et surtout on ne perd pas de vue qu'on est plus fort ensemble.
Alix.
Moi, je dirais que ce nouveau monde, c'est effectivement un monde où les humains ont confiance en eux, se sentent bien dans leur corps, où c'est OK de parler de ses émotions et où on apprend. L'idée aussi de cette école, c'est on apprend, donc les enfants, mais aussi les adultes, on apprend à savoir communiquer, comment on communique ensemble et comment on apprend à vivre ensemble. Voilà, l'idée, c'est ça. Pour moi, le nouveau monde, c'est ça.
Cette semaine dans le rétroviseur était réalisée par Marie-Claude Cudry, diffusée par Bruno Seriba. La programmation musicale était signée Nathalie Schauenberg. Très bonne journée à l'écoute de la première, il est 11h.